Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Conspiration des planches, émission critique des arts de la scène de Radio Campus 92.1 FM, Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Comme chaque mercredi 19h-19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30, la petite demi-heure pour épingler les spectacles qui ont lieu à Bruxelles. À mes côtés, Nicolas et Olivier, bonjour, bonsoir.
Salut.
Et Catherine, normalement par téléphone. Alors cette semaine, c'est simple, hein, c'est le Kunsten Festival des Arts. On vous en parlera chaque semaine. Cet festival dure jusqu'au 26 mai dans plusieurs lieux bruxellois, un festival bicommunautaire qui importe des spectacles du bout du monde, hein, d'Afrique du Sud, du Mozambique, tout ça en VO surtitré, et on voit un peu les pratiques esthétiques et les propos artistiques qui viennent un peu du bout du monde. Donc c'est vraiment un festival précieux, c'est un peu l'Avignon mais en plus pointu. Évidemment, toute l'équipe est sur le terrain depuis une semaine et l'ouverture s'est faite en force avec une œuvre provocante ou choquante qui a traumatisé nos chroniqueurs. C'est Exhibit B, c'est à voir encore ce soir à 21h, mais même si vous n'avez pas l'occasion de le voir, c'est bien d'en parler entre nous. On vous expliquera.
Ce soir, si vous nous écoutez le mercredi, évidemment.
Oui, et donc, mais ça vaut le coup de parler, de voir ce qui s'est passé dans ce festival. On ira aussi du côté d'un spectacle itinérant, New Form of Life au Musée des Sciences Naturelles. C'est aussi du Kunsten Festival, le petit quart d'heure Kunsten. Et on ira aussi dans d'autres lieux qui font des spectacles hors Kunsten et pour cause, Cyrano de Bergerac, au public, Nicolas.
Oui, tout à fait.
Et le poche qui fait le test sur la paternité ou l'infidélité ou les enfants illégitimes. Mais là, je me retourne vers Catherine. Catherine, tu m'entends ?
Je vous entends.
Nous, on t'entend de loin. Ah. Allô, allô ?
Allô, oui, vous m'entendez bien ?
Oui. Ouais. Alors Catherine, tes impressions et je te laisse parler de ce Exhibit B.
Bon, ben donc tu parlais, oui, de Brett Bailey, le Sud-Africain. Pour moi, s'il y a un seul spectacle à voir dans tout le festival, c'est celui-là. Mm-hmm. Même si, il reste peu de temps pour le voir. C'est très, très impressionnant. C'est impossible de rester indifférent. C'est construit comme une exposition. Sauf que les œuvres sont des hommes et des femmes, donc ce sont des tableaux vivants. Alors Brett Bailey s'est inspiré des expositions coloniales d'antan où on exhibait des Africains empaillés ou vivants et reconstitués dans des jungles, où on les faisait danser tout nus autour d'eau comme des bons sauvages. Mm-hmm. Il s'est inspiré de ça. Donc, quand on entre, par exemple, on aperçoit une noire qui est donc installée sur un socle qui tourne comme ça. Elle est à moitié nue et c'est déjà très perturbant. Et puis, on continue le parcours et on tombe sur deux pygmées qui sont là, debout, parmi des têtes d'antilopes et autres trophées de chasse, avec sur une table devant des indications sur le degré de la pigmentation de leur peau, des indications sur leur morphologie. Voilà, comme des objets, quoi. C'est vraiment très interpellant. Et puis, ce qui est très fort dans ce spectacle, je trouve, c'est qu'il met ça en parallèle avec la thématique des sans-papiers, ici en Belgique, mais ailleurs en Europe. Hein,
parce que le lieu le veut aussi.
Oui, parce que ça se passe à l'église Jésus, en face du Botanique, qui est un refuge pour sans-abri, et donc sans doute une bonne partie de sans-papiers.
C'est dans la catégorie des objets trouvés, hein, donc un Nigérian immigrant.
Voilà, on passe devant ces gens qui sont immobiles debout, et surtout qui ont ce regard comme ça, qui fixe les gens dans les yeux. C'est impossible de soutenir ce regard, il y a toute la culpabilité qui remonte face à notre passivité à nous. Devant cette situation, on sait le traitement qui est réservé aux demandeurs d'asile. Parfois, on enferme même, voilà, on les enferme pas, mais on place des enfants dans des conditions
On replace des humains dans des grillages.
Hein. C'est la barbarie est là aussi, quoi. Et donc ce parallèle est très intéressant. Il y a aussi un tableau où c'est une jeune femme bâillonnée et attachée sur ce qui ressemble à l'intérieur d'un avion. Donc on pense évidemment à l'affaire Semira qui avait été étouffée par des policiers. Et voilà, tout ça, sans un mot, suscite beaucoup, beaucoup de questions. Moi, je trouve que toutes les écoles devraient aller voir ça, d'abord parce que la colonisation est très mal enseignée, mais aussi quand on voit avec les récentes élections les propos nauséabonds qui ressortent quand on parle de civilisation et de frontières, voilà, cette xénophobie ambiante fait qu'à mon avis, il y a quelques politiques qui devraient...
Olivier, toi tu l'as vu aussi, tes impressions ?
Mais je suis tout à fait d'accord avec Catherine, c'est à voir absolument, c'est construit comme un chemin de croix et avec les 12 stations dans cette église de Jésus et ça se termine par une image de Semira Adamou sur l'autel justement de cette église. Donc on commence avec la période coloniale et cette noire Sarah, cette Vénus noire pour arriver à Semira Adamou. Donc on traverse toute l'histoire de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Et notre regard en tant qu'occidental blanc n'a guère évolué. C'est ce dont on se rend compte à la fin de cette expérience.
En tout cas, le pari de l'artiste de nous confronter de la colonie à aujourd'hui a bien marché. Chez vous deux, là, les blancs.
Alors là, oui, vraiment, je suis sorti de là excessivement ému, très perturbé, rempli de questions, avec un sentiment très fort de culpabilité, évidemment. Mais tout ça, je pense que c'est voulu par Brett Bellet.
Et puis, il y a une esthétique qui est magnifique. Oui. Hein. Il y a notamment cette série de têtes qui dépassent de socle, comme si c'était des têtes tranchées, sauf que c'est des chanteurs qui chantent des arias cristallins, comme ça, qui avec ces voix qui s'élèvent dans l'église, ça touche. D'une façon irrationnelle aussi. Enfin, l'esthétique est aussi forte que le propos, je trouve. Mmh.
C'est dommage qu'il n'ait pas mis cette exposition, on va dire, entre guillemets, jusqu'au bout, jusqu'au 26, ouais. Parce qu'il y a vraiment un travail qui doit se faire d'aller voir ce spectacle, hein, parce que ça reste un spectacle ou une expo. En tout cas, l'art, on se rend bien compte que l'art est fait aussi pour déranger ou mettre mal à l'aise. Culpabilité, ça dépend de chacun. Il y a beaucoup qui culpabilisent. À un moment donné, il faut juste porter un regard lucide. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu la culpabilité. Et ce qui est étrange, c'est que sur les forums, les gens se défoulent parce qu'il y a des gens que dès qu'on leur dit culpabilité, ils contre-attaquent en disant on ne porte pas le poids du passé, mais en même temps, il y a une...
Il est lourd.
Oui, et ce n'est pas que le poids du passé, c'est aussi l'actualité avec justement la politique d'immigration aujourd'hui en Belgique. Est-ce que ce qu'on en fait ? Notre regard aussi par rapport à l'autre, tout simplement.
Mm-hmm. Catherine ? Allô, Catherine ?
Oui, je suis là.
on va parler d'autre chose. Donc, c'était Exhibit B, c'est encore ce soir, hein, je crois.
À 21h15 et à 22h.
Voilà, les plus vaillants ou les plus courageux, c'est le genre d'œuvre qu'on voit très rarement.
Hein. Ouais,
c'est des
œuvres
qui ça dépasse tout ce qu'on peut voir. En tout cas, c'est un objet exceptionnel. Catherine, autre objet qu'on a vu, que tu as vu aussi, c'est au Musée des sciences naturelles New Form of Life.
Ah oui, décidément, les musées ont la cote dans cette édition du Kingston Festival. New Forms of Life, c'est une expérience intéressante. Qui est proposé par un collectif qui vient à la fois d'Australie, d'Allemagne, de Belgique. Et ces jeunes artistes, en fait, emmènent le public déambuler à travers le Musée des sciences naturelles, dans les différentes salles. D'abord dans la salle des cristaux, puis dans la salle des mammifères, et puis dans la salle des baleines, donc des salles très impressionnantes. Seulement, donc on déambule avec un casque sur les oreilles. Et ces artistes ont imaginé tout un scénario en nous expliquant, donc en parlant dans un micro, qu'on est 30 000 ans dans le futur et que toute l'humanité quasiment a été décimée, mais qu'on a redécouvert ce site, qui est donc le Musée des sciences naturelles, et qu'à travers ce qu'on va découvrir dans les salles, on déduit des choses sur ces hommes et ces femmes qui ont existé il y a 30 000 ans.
C'est questionner le lieu du musée, hein, je crois qu'ils veulent faire également.
Mais c'est questionner aussi notre rapport à la nature, moi j'ai l'impression, parce que c'est vrai que c'est très étrange de déambuler le soir, comme ça, dans un silence total, dans ces salles avec des animaux empaillés, où tout à coup on se rend compte à quel point l'homme s'est complètement déconnecté de la nature, et pour nous la nature, bah, c'est quoi, c'est ce renard empaillé, on a une construction très figée de la nature. Donc, par exemple, il y a aussi dans la salle des baleines, moi j'ai trouvé ça assez impressionnant, on est dans la pénombre et puis on voit ces immenses créatures, ces immenses squelettes au-dessus de nous. Donc ça crée une certaine poésie par moment. C'est un petit peu longué, on a compris le principe au bout de 5 minutes et bon voilà, c'est pas toujours passionnant mais c'est intéressant.
Est-ce qu'il y a un jeu sur l'éclairage du musée déjà à la base ou non, c'est juste avec ce qu'on a dans les oreilles qu'on permet de reforger un petit peu la réalité qui est autour de nous?
Alors, ils n'ont pas du tout touché au musée, si c'est dans les lumières, donc justement dans la salle des squelettes de baleines. Mm-hmm. Là, on est vraiment dans le noir et ça crée quelque chose de très particulier. Mais sinon, dans le reste du musée, non, il n'y a aucune transformation, il n'y a aucun ajout. Donc, en plus, c'est intéressant pour ceux qui ne sont jamais allés au musée des sciences naturelles, parce que c'est quand même... il y a des choses très intéressantes à y voir. C'est dommage d'ailleurs que les artistes n'emmènent pas le public dans la salle des dinosaures, qui est quand même la salle la plus impressionnante.
C'est vrai.
Mais voilà, c'est pas non plus un incontournable du festival.
Voilà. En tout cas, c'est à voir jusque samedi. C'est juste pour de l'ordre de l'expérience. C'est en anglais. On a un petit formulaire en français qu'on vous conseille de lire avant, mais avec un broken English, avec un petit anglais, il y a moyen de s'en sortir. C'est à voir jusque samedi dans le cadre du Kunsten. Alors vraiment, le Kunsten fait le grand écart. Hein. Donc on a eu ce musée avec cette déambulation à 30 000 ans après. On a eu l'expo des Noirs. Là, on est dans le 19e au 20e, on reprend les siècles. Et alors, rien à voir au Tanner. Là, on a vu Brume de Dieu. Alors si je crois que vous êtes dans des avis partagés, je prends l'avis le plus positif, c'est-à-dire Olivier, voilà, qui aime ce genre de pièces.
Et pour moi, l'autre grand moment du festival avec Brett Bailey, c'est Claude Régis, définitivement, Brume de Dieu. Il adapte un texte d'un Norvégien, Tarjei Vesaas, qui a écrit ce texte, Les oiseaux, en 1957. Il est né en Tarjei Vesaas en 1897 et il est mort en 1970. Et Claude Régis en extrait vraiment une partie. Et donc c'est un monologue interprété par le jeune Laurent Cazenave qui nous raconte l'histoire d'un certain Matisse qui vit avec sa sœur Égée au bord d'un lac. Et ce Matisse est un cœur simple, un esprit simple, un peu demeuré, comment dire aujourd'hui. Et pour activité principale, il va pêcher dans un lac. Et ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il va pêcher dans ce lac, il s'aperçoit que sa barque est trouée. Il est en train de couler jusqu'à ce qu'il trouve un îlot vers lequel il va aller. Et donc c'est une histoire tout à fait simple, mais je pense que ce qui est dit à travers cette histoire, c'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose qui se trouve déjà dans le titre « Brume de Dieu ». Donc on est vraiment pour moi dans l'entrelac de l'ombre et la lumière, du jour et de la nuit, de la folie, de la normalité. Et c'est magistralement rendu par la mise en scène, par la scénographie, par le jeu du comédien.
Faut dire que Claude Régis est un grand metteur en scène français de 90 ans, donc déjà voilà. Ça impressionne, et il a un travail très minimaliste.
Tout à fait, donc c'est lui qui a fait jouer pour la première fois les textes de Marguerite Duras, de Nathalie Sarraute, c'est lui qui a fait jouer Gérard Depardieu aussi dans les années 70, avant les Valseuses, donc c'est quelqu'un qui a aussi un attrait pour les textes de l'oralité.
Mais justement, est-ce que ça peut être ardu? Parce que c'est des mises en scène très sobres. Ici, c'est aussi le même...
Tout à fait, c'est presque chorégraphique. Donc on est vraiment, dès qu'on rentre dans la salle, il y a une atmosphère qui nous envahit. Il y a un silence vraiment très religieux qui s'installe. Il y a une espèce de froid qui s'installe aussi. Donc tout le public s'installe dans la scène, dans la salle, dans le silence, on attend. Et puis surgit le comédien dans le silence. Il marche lentement vers nous. Pendant 5 minutes, il n'y a rien qui se passe, et puis il va commencer à
être dans son monologue.
À être dans son monologue, voilà. Et on n'est pas dans de la psychologie, il n'incarne pas un personnage, parce que le texte, c'est du style direct et indirect, et donc on n'est pas dans ce genre de
théâtre.
C'est
le récitant.
C'est le récitant, et voilà.
Sur les photos, ça a l'air très bleu, les photos, est-ce qu'on est dans un paysage de couleurs ?
Non, donc on est dans une scénographie très bas de plafond, avec des lumières de couleur, justement. Il a utilisé la technique du LED, donc c'est une lumière très pure et qui est magnifique, vraiment très très belle. Donc on passe par des bleus, par des jaunes, par des verts. C'est assez magistral.
C'est aussi un peu austère, non ?
Ça demande un certain effort de la part du spectateur. Donc même après cette entrée en matière silencieuse, les premiers mots, parce qu'il y a un vrai travail sur la diction, sur le rythme des phrases qui est cassé. Donc les premières phrases, on ne comprend pas très bien ce qui est dit par le comédien. Donc ça demande un effort de concentration. Mais petit à petit, si on se laisse aller dans cette musicalité, dans cette poésie, on entre vraiment en osmose avec le comédien, et je peux vous dire qu'à la fin du spectacle, on est vraiment ébranlé.
On va dans des souterrains, on a l'impression. Catherine, et toi, comment tu as perçu La Brume de Dudonc ? Hier, c'était la première, vous l'avez vue tous les deux.
Oui, moi je suis d'accord, ce qui est très très impressionnant, en fait, c'est l'avant-spectacle pour moi. Quand les spectateurs s'installent, il y a déjà comme ça un silence, comme si on allait assister à un rituel, à quelque chose d'un peu sacré. C'est vraiment très très étonnant. Alors, je suppose que ce sont des habitués du théâtre de Claude Régis qui se préparent à un moment un peu hypnotique. Et en effet, pour moi, c'est un spectacle qui s'apprécie vraiment dans son ensemble. Donc sur le moment, il faut s'accrocher, je trouve. Moi j'avoue avoir décroché à certains moments parce qu'il y a ce minimalisme, parce que ce jeu est très très étrange. Ce sont des mots qui ont du mal à sortir. Il y a un rythme pas lancinant, mais très presque monotone comme ça, donc c'est pas facile quoi. Le spectateur est mis à rude épreuve, mais dans l'ensemble je suis d'accord, c'est un très bel objet.
Ça a l'air d'être une traversée, hein. Est-ce que tous les deux vous aviez déjà vu d'autres œuvres de Claude Régis?
Moi j'avais vu Cap 48 avec Isabelle Huppert, mais voilà, où la présence d'Isabelle Huppert, le charisme d'Isabelle Huppert permettait un contact plus facile aussi avec le texte de Sarah Kane.
On dirait un théâtre de chambre. En tout cas, Brume de Dieu, c'est à voir jusqu'à la semaine prochaine. Hein. C'est à voir jusqu'au mercredi. Et c'est un des grands moments, enfin, du Kunz, parce que c'est une star. Hein. Claude Régis a 90 ans. On ne sait pas si on le reverra. En tout cas, il a un fan club ici. Et donc, bon, voilà, soyez avertis. Ça demande une écoute et de rentrer dans une certaine musicalité.
Et, ça dure 1h20.
Ok, ça dure 1h20, c'est jusqu'à la semaine prochaine. Alors, quelque chose de tout à fait différent à voir. On vous dit les derniers spectacles qu'il y a à voir. En tout cas, juste épingler Hamlet par des Suédois, hein, Nicolas, qui font Hamlet cinéma.
Ça commence ce soir et ils transportent ce monument théâtral dans un univers audiovisuel. C'est rien dire, évidemment. On attend de découvrir un petit peu comment ça va se passer. Mais on sait comment fonctionne Shakespeare sur complot, manigance et beaucoup, beaucoup d'action, on va dire, de retour de situation, en tout cas. Et beaucoup de jeux sur les personnages, évidemment.
En tout cas, ça commence ce soir et c'est jusqu'à la fin de semaine, je crois.
Au Théâtre 140.
Au Théâtre 140, Hamlet version suédois, c'est quand même drôle. Et version cinéma, ça c'est pour le Kunsten Festival. Et on va faire une petite pause musicale.
La constellation.
Et c'est pas une chanson un clin d'œil à Brad Bailey, hein, mais c'est tout comme. En tout cas, c'est Strange Fruit, le titre de l'album de l'aventure de Fabrizio Cazol, un jazzman belge, qui a réuni toute une flopée d'artistes: Oumou Sangaré, Marie Dolne, David Links, Baba Sissoko, Claron McFadden, Chris Dane, Melissa Givens et la Coraline, c'est les jeunes chanteurs de La Monnaie. Alors, ils ont bossé pendant des mois et des mois et des mois sur un album, sur Strange Fruit, hein, la chanson emblématique de Billie Holiday, sur la colonisation, où ces Noirs massacrés, qu'on pendait à des arbres.
La traite des Noirs aux États-Unis.
La traite des Noirs, qu'on pendait dans des arbres, hein, on croisait quand on marchait un Noir, un esclave pendu. Donc à travers ce chant, ils ont fait tout un mixage d'autres chansons, évidemment. Ce qui est dommage dans le CD qu'on a reçu, c'est qu'on ne voit pas la traduction des paroles des chansons. C'est quand même moche pour un album qui porte quand même une parole, mais on ne comprend pas, donc je serais incapable de vous traduire ce qu'on vient d'entendre. En tout cas, il y a deux versions de Strange Fruit, et la deuxième version est un petit bijou parce que ça mixe vraiment le jazz, le chant d'opéra, les sonorités africaines, et c'est vraiment une reprise, si on a le temps tout à l'heure.
On la mettra pour la fin de l'émission.
De la réécouter. Toujours est-il qu'il y a deux concerts pour ça, ils sont 60 sur scène, alors allez savoir si c'est la communication ou pas, mais on nous annonce des concerts uniques et d'exception. Donc ce sera le 31 mai au KVS et le 1er juin au Théâtre National. Bon, ça risque d'être sold out, en tout cas. C'est le genre d'événement qui réunit
C'est un beau plateau, en tout cas.
Voilà. Et 60 artistes sur scène, ça vaut le coup. Retour à la conspiration des planches et les spectacles après la musique. On va faire un tour du côté du Théâtre de Poche qui dévoilait hier la première de son spectacle qui s'appelle Le Test et qui est mis en scène par René Georges. Le test, c'est de Luca Barfus, un artiste suisse, un écrivain, un dramaturge suisse de langue allemande, et ça raconte un peu la paternité. Le test, c'est le test de paternité qui glisse, qui démarre dans ce spectacle et qui fout le bordel dans une maison. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a d'entrée de jeu un jeune qui est totalement déboussolé, totalement nerveux. Il y a un plateau très nu avec une image de couleur un peu derrière. On comprend pas bien, mais en tout cas, on voit qu'il est mal barré. Le gars, il est très nerveux vis-à-vis de sa femme, évidemment, qui est une pute. Il lui dit que finalement, on comprend qu'il a eu un chiard dans la maison, une espèce de bâtard. Et en fait, on comprend que ce gars vient d'apprendre qu'il n'est pas le père de son enfant. Et moi, je ne comprends toujours pas pourquoi ça l'a déboussolé autant. Mais bon, je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas comprendre. Et d'autant qu'il aime sa femme, d'autant qu'il a aimé évidemment ce garçon. Donc, il n'arrive toujours pas à comprendre comment il a pu aimer un bébé, un garçon, comment il lui a pu lui trouver des ressemblances avec lui-même et que finalement, il apprend par un test qu'il n'est pas le père. D'autres personnages tournent autour parce qu'il y a son papa, il y a sa maman et il y a le conseiller de son papa. Il faut savoir que son papa est un homme politicien qui est en pleine élection au moment où le gamin ou le grand-fils trouve qu'il n'est pas le père de son propre enfant. J'espère que ça a l'air clair. Et en tout cas, c'est une mise en scène très minimale parce qu'il y a un plateau nu avec juste un écran ou des images, des fils, par exemple comme des codes AGN, entre les scènes qui s'entrent, parce que c'est des scènes à deux, le père, le fils, puis la mère, le fils, le conseiller, le fils. Donc on n'a que des flashs de scènes entrecoupés de noirs musicaux où les personnages traversent la scène et on voit des ombres. Et on est dans plusieurs passages, chacun est typé, chacun est croqué. La mère, par exemple, elle est complètement branchée, hein, de karma et tout, donc elle vient avec ce discours. La fille qui porte l'enfant, donc la maman de l'enfant, elle ne comprend pas à un moment donné pourquoi il lui a pas demandé avant de faire le test. Elle avait bu, elle a accouché avec un gars, elle s'est retrouvée enceinte, elle ne voulait pas d'enfant, mais apparemment ça faisait plaisir au père. Et on a le père, donc le grand-père, qui lui est complètement pris dans sa campagne. Et ce qui a le personnage clé de cette pièce est le conseiller du père, qui est incarné par Fabrice Had, exceptionnel quand même, qui met le doute, en fait, dans la tête du fils. Il lui met le doute. Est-ce que tu es vraiment le père? Pourquoi tu ferais pas un test ou quelque chose? Donc, c'est une pièce d'abord sur le doute qui peut détruire comme ça toute une personne, notamment les hommes, hein, parce que c'est pas eux qui portent l'enfant, donc on peut avoir ce doute. Et toute la famille un peu se déglingue, chacun dans sa vérité. On comprend pas, moi je ne comprends pas pourquoi ce gars s'acharne dans une vérité alors qu'il a élevé un enfant et qu'il aime finalement.
Mais c'est peut-être la trahison finalement, ou le mensonge en tout cas sur le départ.
Il y a toute cette valeur, voilà. Et moi ce qui m'a vraiment touchée, c'est le dialogue le dialogue entre le père et le fils. Où le père et la belle-fille, lui, il est politicien. Il a dépassé votre cocooning de petits bourgeois et intéressez-vous un peu plus au monde. Eux qui défendent leur discours de dire nous, on est heureux dans notre cellule familiale qui nous protège, on n'a pas envie de faire de politique. Et ce débat de génération ou de conscience politique, moi, j'ai pris ça. Évidemment, le texte est fort sur la paternité ou non, le doute qui y met. Toute cette famille se déglingue. Avec des coups de théâtre ou pas.
Le poche aime bien les familles qui se déglinguent.
Oui, et René Georges aime, je dirais, je me suis dit, René Georges, il a un théâtre existentialiste, mais quelque chose de très fort qui nous met un peu, qui nous retranche dans nos limites pour un peu se demander. Donc, c'est, bon, je dirais, c'est très fort. Moi, j'ai eu un petit peu de problème parce que j'ai trouvé que c'était 20 minutes de long. En tout cas, moi, ça m'a moins touché que le public qui applaudit. Donc, ça, je voulais juste le préciser. Le public a vraiment aimé. Moi, j'ai moins aimé le jeu. Je trouvais qu'hier à la première, c'était un jeu un peu forcé, trop d'énergie pour cette première, mais le sujet est tellement inhabituel, la forme est sobre, que je me dis ça vaut le coup d'aller faire un tour du côté du test qui commence aujourd'hui jusqu'au 2 juin au Théâtre de Poche. Et évidemment, le Théâtre de Poche fait bien les choses parce qu'il y aura une rencontre sur la paternité, et il y a même un blog où les gens peuvent pas se défouler, mais en tout cas raconter leur histoire.
Et les pères notamment, hein, aussi en lien avec leur spectacle sur les pères qu'ils avaient proposé. Toutes les infos sur www.poche.be et également des places à gagner dans nos agendas culturels pour quelques représentations du test.
Est-ce qu'on mettrait un peu de musique ou un peu de Cyrano, Nico ?
Ben, on va d'abord parler de Cyrano, je propose, et puis on terminera en musique pour se dire au revoir. Juste signaler eh bien, que commence le 11 mai prochain un nouveau Cyrano de Bergerac, de Ronsan, un monument. On avait déjà pu voir une version en début de saison du côté du Théâtre des Martyrs. Ici, c'est Michel Kassenhollenbogen qui monte ce spectacle, qu'on a pu voir à sa création à Namur, il y a à peu près un mois, et qui nous propose... le texte tel qu'il est, avec on sait comment ça marche Cyrano, beaucoup beaucoup de personnages et finalement très peu qui en ressortent et qui prennent le devant de la scène, dont le Cyrano qui est ici interprété par Olivier Massard, magistralement, avec la fougue nécessaire, avec le verbe évidemment, puisque c'est ça aussi le centre de la pièce. Il faut pas oublier que Cyrano de Bergerac, c'est une histoire d'aventure, d'amour, mais aussi une histoire sur l'art, sur le théâtre, sur la poésie évidemment, puisqu'il y a toutes ces questions que évoqué notamment par le personnage de Cyrano du XVIIe siècle, évidemment, avec ce théâtre classique qu'on connaît bien également. Une mise en scène qui se veut vive dans les différents décors qui nous sont proposés. Un décor qui est au départ un simple mur dans le fond, d'où sortent les escaliers, les portes, et qui se transforme d'hôtel de Bourgogne en champ de bataille, en camp retranché, puisqu'on sait qu'il y a cette scène, et puis à la fin en couvent où Roxane s'est retirée pour l'histoire que l'on connaît, pour la perte de son pauvre Christian. Je ne dévoile rien de l'histoire en disant ça. Donc une très belle interprétation, un joli spectacle plein d'énergie, avec un texte qui, je crois, maintenant doit être un petit peu mieux en bouche que lors de la première où il y avait encore quelques hésitations. Mais il faut reconnaître que c'est un texte qui n'est pas simple. Il faut savoir l'apprivoiser. Et Olivier Massard le fait bien. Christian Crahe, qui est également là, tient bien la scène. Jeanne Kassenhollenbogen interprète une Roxane qui affirme bien son aspect de garçon manqué, mais un peu trop, malheureusement. On aurait aimé un petit peu plus de romantisme dans cette jeune fille un petit peu perdue. Et Quentin Minon également dans le rôle de Christian. Voilà. Et c'est à voir donc au Théâtre Le Public jusqu'au 30 juin.
Ouf, il y en a des dates.
C'est le dernier de la saison.
Et c'est le dernier mot de l'émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle conspiration des planches, évidemment.
Et on se quitte avec Strange Fruits, extrait de ce spectacle dont on vous parlait tout à l'heure. Toutes les infos sur notre site et également notre podcast sur demandezleprogramme.be et sur le site de La Bellone également. Belle semaine à vous et à bientôt.
Radio...
Oui.
Campus.
Oh.